Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté cette invitation pour la première mouture de nos podcasts. Je te propose que tu reviennes sur l'article que tu as publié avec Gilles Certoux, Miranda Radou-Lefèvre dans Technovation. Un article qui porte sur la notion de confiance que délivrent les business angels aux jeunes porteurs de projets dans leurs décisions d'investissement, de réinvestissement et éventuellement de retrait. Donc dans cet article extrêmement intéressant qui s'inscrit dans la finance entrepreneuriale, et je pense que tu pourras nous en dire un mot par la suite, j'aurais voulu revenir sur un certain nombre de points. Bien sûr que tu présentes tes co-auteurs et notamment la personne qui a travaillé au sein des Business Angels, puisque c'est aussi une identité qui est assez intéressante, ou en tout cas un parcours qui est intéressant. Ensuite, que tu reviennes un petit peu sur le choix de la revue et on enchaînera également sur la partie théorique, ce choix théorique de l'ancrage dans la finance entrepreneuriale. Puis la description des deux cas sur lesquels s'inscrit cet article. Et enfin, une discussion qui est assez aussi intéressante en 10 propositions. Alors, peut-être pas revenir sur les 10 propositions, mais en tout cas, nous dire pourquoi vous avez choisi ces 10 propositions. Alors, donc, on commence peut-être par une présentation des auteurs, si tu es d'accord, et en particulier de toi.
Alors, merci beaucoup Valérie pour cette invitation à venir présenter ce papier. Je suis Vincent Lefebvre, je suis professeur associé en entrepreneuriat à Audencia. Je fais partie d'une équipe de professeurs au sein d'Audencia, dont mes deux co-auteurs qui sont Gilles Certoux et Miranda Radou-Lefèvre, sur lesquels je reviendrai sur leur parcours par la suite. Moi, j'ai un parcours d'accompagnateur de créateurs, dirigeants, repreneurs d'entreprises. Et j'ai viré dans le monde académique il y a maintenant une dizaine d'années. C'est mon goût pour l'observation des phénomènes qui amènent un peu ce type de recherche et qui va être à l'origine du papier. Je suis également membre du conseil d'administration de l'Académie de l'entrepreneuriat et en charge en particulier de son site internet et des différents médias sociaux. Pour mes co-auteurs, Gilles Certoux, lui, et c'est un professeur d'entrepreneuriat également à Audencia, il a la particularité d'avoir et d'être toujours un business angel, et c'est lui qui va avoir tenu ce rôle un peu particulier dans cette recherche de chercheur à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il a joué un rôle actif, il a été un des investisseurs dans ces différentes entreprises qui est dans les cas, donc il a lui emmené l'ensemble de l'histoire il connaît l'histoire de A à Z, lui qui a donné accès à l'ensemble de la documentation et qui a permis de brasser et de compiler l'ensemble des cas. Donc c'est un cas particulier, c'est des approches méthodologiques qui justement permettent l'intégration dans une équipe de chercheurs, d'avoir des membres qui sont à l'intérieur, des membres qui sont à l'extérieur. Donc c'est lui jouer le rôle du membre à l'intérieur des dispositifs. Et enfin, Miranda Radou-Lefèvre, qui est la troisième auteure, est venue renforcer l'écriture, le travail méthodologique et théorique autour de ce papier. Toujours sur moi, ce que j'aime dans les papiers, c'est dans les articles, c'est l'envers du décor, l'histoire un petit peu qui a amené l'intérêt pour le phénomène observé, pourquoi on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là. On avait eu un premier travail qui était dans le sillage du travail sur la confiance dans la relation d'investissement qui est un phénomène qui a été étudié par entre autres par Maxwell et Levesque qui ont travaillé et bien introduit cette dimension là dans la décision d'investissement. Mais au-delà de la décision d'investissement et de cette relation de confiance, on a petit à petit, après avoir travaillé sur un premier article pour une conférence, on s'est intéressé à la durée, à cet enjeu dans la durée. Alors, ça vient d'un modèle qui était proposé en family business, justement, qui était sur le maintien de la relation de confiance. Et c'est vrai que ça nous a interpellé de se dire, c'est en croisant hein, ces cadres théoriques, on s'est dit, mais au final, on parle de la décision d'investissement comme si il n'y avait plus grand-chose qui se passait après, comme si une fois que l'argent était sur le compte en banque de l'entrepreneur, bah globalement, on allait s'intéresser éventuellement à la sortie des investisseurs, mais dans la vie de la relation au quotidien, bah c'était quelque chose qui était un peu moins adressé. Et plus particulièrement, c'est ce rôle, et ça, ça vient des discussions justement avec notre collègue Gilles, en tant que justement celui qui est à l'intérieur et qui est le praticien, qui joue le rôle du praticien. Et ben en fait, se rendre compte que ben cette logique d'obtenir son investissement sans se soucier forcément de la relation ensuite, voire juste penser à une logique de sortie qui vise à la fin de la relation, on s'est rendu compte que ben il y avait potentiellement un rôle qui était très peu exploré, qui était celui du réinvestissement par les mêmes investisseurs initiaux. Donc, et dans quelle mesure bah, ces investisseurs-là pouvaient être ceux qui allaient soutenir durablement, avec des réinvestissements quand il était nécessaire, le projet pour lui permettre d'atteindre, bah, voilà, on en reparlera, cette sortie de la vallée de la mort.
Mmh. Oui, donc le rôle de... Cette notion de confiance qui se travaille dans le temps, en fait, c'est un petit peu ça que vous avez voulu observer et tenter de modéliser la manière dont elle se travaille ou pas, ou elle se détruit.
Alors, autant on a des indications sur qu'est-ce qu'un événement qui renforce la confiance, abîme la confiance, détruit la confiance en fonction de la nature de l'événement. De l'interaction qui va avoir lieu, peut avoir ces différentes choses. Hein. Je peux prendre un exemple qui est un mensonge détruit la confiance, va avoir du mal à la renforcer, être transparent sur sa communication, envoyer ses comptes au bon moment, relater les différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise. Voilà, la transparence permet de maintenir une relation de confiance. Donc on a des événements qui sont un peu extrêmes, et c'est un peu ça qu'on a essayé. On a travaillé dans une approche par les événements pour essayer d'identifier les événements qui ont fait que, une fois que on s'est pas intéressé à l'investissement, au primo investissement, mais plutôt à la relation une fois que l'investissement a eu lieu, à la relation dans le temps et à l'évolution des différents événements qui ont pu arriver dans la relation. Et on a essayé de voir si ces événements étaient de ordre au travers des différentes documentations et puis au travers de la mémoire de celui qui est de notre chercheur à l'intérieur. C'est d'essayer de comprendre si ces événements étaient des événements d'ordre de renfort ou de destruction de la confiance. Et d'arriver à modéliser une trajectoire d'évolution de la relation de confiance entre les investisseurs et l'entrepreneur. Les entrepreneurs, ça peut être aussi des équipes. Donc, dans cette évolution, eh bien, on s'est rendu compte que, en fonction de la nature des événements, en fonction de l'évolution de la trajectoire de la relation, eh bien, on allait se retrouver dans des situations dans lesquelles eh bien, la confiance est maintenue dans le porteur, plus le porteur de projet, mais le fondateur. Et la confiance est maintenue dans le projet et dans sa capacité à se développer. Donc, on va jouer un rôle de soutien financier au-delà de notre du premier investissement, et on va être en capacité à être l'investisseur de second rang qui va revenir permettre de continuer le chemin. Alors tout ça est mis en relation avec la logique de vallée de la mort, dans la mesure où on a affaire à des entreprises innovantes qui ont besoin d'amener leur solution nouvelle sur un marché et pour lesquelles il y a un besoin de financement qui permet de passer De l'invention à l'innovation, à savoir sa commercialisation et le moment où l'entreprise générera ses propres revenus. Donc on a hein, dans la littérature sur la vallée de la mort cette logique de relais, d'investissement, de typologie, d'acteurs qui vont venir à différents moments. Le business angel a la particularité, c'est qu'il joue un rôle un petit peu de gardien, de passeur de vallée de la mort, parce qu'il peut intervenir un peu à tous les niveaux de l'avancée d'un projet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure il peut jouer ce rôle de pont, de passeur, jusqu'au bout, c'est-à-dire que se rendre compte que en fait on est au milieu du gué, qu'on n'est pas encore à maturité pour aller chercher, parce qu'il a une connaissance du milieu des financiers qui est particulier, qui est plus en général plus important que celui de l'entrepreneur. Il sait que une potentielle rallonge peut être cette rallonge qui permet de traverser la vallée de la mort et d'éviter cette invention de rester invention et de ne jamais connaître son marché. Donc c'est pour ça que cette perspective, on l'aborde vraiment sur une perspective très finance entrepreneuriale, c'est qu'on l'aborde sous l'angle de l'investisseur qui joue ce rôle de passeur par rapport à l'entrepreneur pour que globalement il puisse atteindre l'autre côté.
Alors justement, ça, pour un petit peu revenir sur cette notion de finance entrepreneuriale, ça fait écho à la théorie du signal qui est souvent mobilisée en finance entrepreneuriale. Est-ce que tu vois un lien? Alors ça n'a pas du tout été abordé dans l'article, hein, c'est un peu une question qui revient énormément en finance entrepreneuriale, les différents signaux, l'impact sur les différents financeurs, donc chaque signal pouvant avoir un impact plus ou moins positif sur les différents financeurs. Alors vous avez écarté visiblement ce point, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un apport ou est-ce que tu penses éventuellement que la confiance peut se traduire comme un signal et si oui, comment?
Alors, mais la confiance dans les travaux sur les décisions d'investissement est l'élément qui est devenu au cours des dernières années un élément central plutôt l'élément le plus compliqué à matérialiser. Ça se matérialise pas par une étude de marché, une validation par un client, c'est un peu difficile de matérialiser et valider cette confiance. Donc c'est cette relation, cette création de relation, ce temps qui s'inscrit, cette dimension un peu difficile à percevoir qui est à l'intérieur de cette notion, mais qui a pris une dimension importante dans cette logique de décision. Donc au final, oui, cette elle est faite de multiples, ce sont des multiples signaux qui vont faire que cette confiance va se bâtir, va se détruire, va se dégrader. Plus on va prendre un temps long, plus on va avoir une quantité, si tu veux le prendre sous l'angle des signaux, mais là c'est plutôt des événements déclencheurs de signaux hein, en l'occurrence qui sont étudiés, mais c'est plutôt l'angle de l'événement on est sur un temps plus long, on est sur des éléments qui sont plus tangibles, sur des éléments sur lesquels on peut à l'intérieur d'un rapport mensuel décider d'omettre une information clé d'une perte d'un client qui va tout d'un coup revenir au moment du dépôt des comptes annuels officiels. On est sur des éléments très très tangibles en fait, sur une matérialité en fait. Quand on travaille sur ces processus, longs, on va plutôt chercher des éléments qui vont pouvoir offrir de la matérialité à l'analyse. Donc c'est méthodologiquement, du coup, on va chercher des événements et la matérialité à laquelle on peut associer l'événement, donc à l'intérieur parfois d'archives ou de témoignages qu'on peut recueillir par rapport aux différents investisseurs. Donc oui, des signaux, mais plutôt une perspective prise qui est l'ordre de l'événement et une matérialité qui va permettre de qualifier la nature de l'événement et qui va être en lien, parce qu'en fait, l'élément qui est influencé, c'est la confiance de l'investisseur. Donc c'est plus on cherche à comprendre dans quelle mesure la confiance de l'investisseur dans l'entrepreneur ou dans l'équipe entrepreneuriale ou dans le projet ou les deux est influencée au cours du temps et dans quelle mesure cette évolution là va faire que il va pouvoir continuer à soutenir promouvoir aussi auprès des autres acteurs, parce qu'effectivement, cette capacité à jouer ce relais et à informer les autres financiers que eh ben, le temps du relais est le leur et que c'est plus à eux de venir. Voilà, donc on a différents événements, différentes étapes, différents moments qui sont étudiés ici.
Donc tu dirais qu'il y a quand même une hypertrophie peut-être de l'importance de la confiance au démarrage et notamment dans la relation avec le business angel et qu'ensuite prennent le relais est pris par d'autres, alors moi je parle de signaux, mais en tout cas par d'autres indicateurs, d'autres événements qui seraient moins en lien avec la confiance parce que là on est forcément très intuitif personnel entre l'entrepreneur et le business angel qui sont deux hommes. Enfin, ou deux femmes, mais qui en tout cas sont deux individus, et donc d'où ces notions de confiance qui ensuite peut-être se délitent un peu, ou en tout cas pas la confiance qui se délite, mais en tout cas l'importance de la confiance qui vient pas forcément alimenter les mêmes de la même manière la décision d'investissement.
En l'occurrence, on parle plus de la décision première d'investissement est passée, ouais. On est plutôt dans cette logique de relation dans le temps long, du moment où les business angels sont dans l'entreprise et ils sont engagés dans différentes actions, sous différentes formes, avec un représentant. Après, les modalités de présence sont propres à chaque projet et à chaque relation, mais c'est surtout c'est l'importance qu'on a tendance à accorder à l'entretien de la relation de confiance entre soi, entre l'entrepreneur et son investisseur. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce sentiment qu'une fois que l'investisseur est là, rentré, ben en fait, il suffit juste de remplir le cahier des charges tel qu'il a été proposé dans le pacte convenu et que en fait, voilà, la chose est faite et qu'après le rôle est un peu passé, un peu consommé. L'idée là, c'est que en fait, c'est en tant que partie prenante qui intègre l'entreprise, ces investisseurs-là, on a besoin d'avoir une vigilance particulière dans le maintien et l'entretien de cette relation de confiance pour éviter que, eh ben le rôle de prescripteur qu'ils peuvent jouer auprès d'autres financiers, que le rôle de réinvestisseur, parce que c'est ce rôle-là qu'on essaie aussi de mettre en avant, qui est en général peu évoqué. On parle surtout de leur premier investissement, on parle rarement des rallonges qui sont faites dans les projets. Et pourtant, quand on discute avec des business angels, on se rend compte que souvent, il y a un deuxième tour en interne qui va s'organiser. Et souvent, ce deuxième tour, il est là pour pouvoir justement traverser cette vallée et pouvoir atteindre un certain niveau de développement de l'entreprise qui va faire que les financiers d'après puissent arriver. Et cette logique de cet événement qu'est le réinvestissement, qui peut aussi prendre quand la forme d'une recommandation ou de prescription quand on est dans une logique de sortie ou de faire rentrer l'investisseur suivant, eh ben le rôle de prescripteur, il faut avoir confiance dans le projet qu'on prescrit. On ne prescrit pas quelque chose où on pense que le mur va se produire dans 6 mois. On réinvestit dans quelque chose qu'on pense être capable d'aller chercher peut-être le prochain cycle de financement. Mais c'est plutôt cette logique de confiance au cœur de la relation et de la relation long terme, et pas uniquement créer la confiance pour obtenir un premier investissement. C'est bien cette logique long terme de la relation, parce qu'on ne sait pas de quoi, voilà, globalement, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est pas parce que on a réussi à obtenir son premier financement qu'il faut tout de suite avoir le regard porté sur le deuxième niveau d'investisseur. Il faut continuer à prendre soin de ses premiers investisseurs.
Ouais, dans cette, ouais. Très bien. Alors sur la, bon, donc on a un peu balayé, on a essayé de balayer, d'approfondir aussi cette notion de confiance parce qu'elle est centrale bien sûr dans le papier. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le choix des cas? Donc, il y a eu deux cas, c'est basé sur deux cas. Pourquoi ces cas? Et voilà, à partir de quel type de matériaux vous aviez visiblement la possibilité de choisir plusieurs cas? Vous aviez des différentes alternatives. Alors, pourquoi ces deux cas?
Alors, c'est les cas qui sont apparus les plus représentatifs et aussi pour lesquels on était les mieux outillés pour pouvoir avoir du détail, voilà, pour avoir un maximum de détails. On aurait pu creuser d'autres cas, mais c'est vrai que globalement, on se rendait compte que on retombait sur les mêmes mécanismes. Donc on a pris, comme on avait tendance à retomber sur les mêmes mécanismes qui étaient en jeu et qu'on avait des points communs, on a privilégié ceux pour lesquels on avait les relations, la plus grande période de temps possible et le plus grand retour d'expérience possible, et aussi ceux pour lesquels on avait les éléments les plus extrêmes pour lesquels on avait voilà c'est le mieux et le pire hein, globalement.
Alors, la discussion est composée de 10 propositions. Bon, je pense que déjà dans la discussion qu'on a eue sur l'approche théorique, tu as déjà fait en partie un certain nombre de propositions, ou en tout cas, tu en as évoqué quelques-unes. Alors, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est dans la construction du papier, d'avoir fait 10 propositions comme ça, qui m'a paru assez inhabituelle. Est-ce que vous avez d'emblée dans votre papier, quand vous l'avez envoyé dès le premier tour, eu ces 10 propositions, ça a été accepté tout de suite, c'est pas quelque chose qui a été problématique pour vous?
Alors en l'occurrence, ces éléments-là n'ont pas été problématiques pour nous. Ça pas, ça, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de l'écriture. Ce qu'on a eu comme discussion plus avec nos reviewers. Alors pour reprendre l'histoire de la soumission du papier et pourquoi Technovation, parce que tu l'avais évoqué tout à
Oui,
l'heure.
j'avais évoqué, oui.
Je vais peut-être commencer par là parce qu'en fait, ça va donner un peu les éléments qui permettent de répondre. On avait fait ce premier travail qui était un travail de conférence où on avait vraiment dégrossi un peu la logique de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire soutenir la confiance dans une logique de relation aux investisseurs. C'était vraiment un papier embryonnaire qui visitait la littérature et on n'avait pas encore greffé nos cas dessus. Il y a eu un appel, c'est un numéro spécial de Technovation sur la vallée de la mort et sur la traversée de la vallée de la mort. Alors c'est vrai que si tu es c'est les moments où tu te dis bah tiens c'est marrant parce que c'est notre titre de papier de conférence on match quasiment l'invitation à communiquer pour le numéro spécial. Donc là, tu te dis, waouh, il faut y aller. Il y a pas de, voilà, tu te poses pas la question de tiens, bah non, est-ce que ça va bien fitter avec le call? Non, c'est-à-dire que le titre du call et le titre du papier de conférence étaient à 80% identiques. Donc tu te dis, tu poses pas la question, tu fonces. Donc on a foncé. Et c'est vrai que dans les rounds avec les reviewers, on a eu des questions sur le positionnement effectivement théorique sur la vallée de la mort, qui était pour certains des concepts plus en innovation, parfois marketing, et sur la lecture qu'on en proposait au travers de la relation aux investisseurs. Mais voilà, beaucoup d'ouverture dans ces reviewings. Mais on sentait bien que on n'était pas forcément dans le. Voilà, on est des profs d'entrepreneuriat. On a fait une proposition qui vraiment se positionne dans le champ de la finance entrepreneuriale et qu'on était sur des discussions où on était un peu en décalage par rapport à nos reviewers, par rapport effectivement à la lecture, aux grilles de lecture qu'on utilisait par rapport à ça. Mais on a eu effectivement des éditeurs invités sur le numéro spécial ont été remarquables et ont réussi à vraiment amener à refaire le lien entre effectivement ce que proposaient les reviewers et notre proposition et à nous emmener jusqu'au bout du processus. Donc ça, c'était une expérience très enrichissante. Et puis effectivement, avec un mélange des apports de reviewers d'autres disciplines et avec un jeu des reviewers et des éditeurs invités qui a permis effectivement de bâtir cet ensemble-là. L'invitation, effectivement, a énoncé des propositions. Hein, certes, il y en avait. De les détailler, d'en évoquer davantage, c'était effectivement dans ce travail-là que ça s'est mis en place. C'est aussi que le papier, hein, pour ceux qui iront le lire dans son intégralité, se construit en bloc. Hein, il se construit en bloc avec des illustrations. Qui au fur et à mesure permettent de comprendre comment et à quel moment, dans le cheminement à la fois, qu'est-ce que la vallée de la mort, comment se positionnent les investisseurs dedans, comment on peut réussir à joindre, quel est le modèle qui permet d'envisager, quelle est la suite d'événements qui est pris en compte dans les différents cas, et ensuite, dans une perspective processuelle, quelles sont les étapes et qu'est-ce qui se passe en termes de séquençage entre le moment où l'investisseur rentre, la création de la confiance se bâtit, se détériore. Est-ce qu'il y a investissement, réinvestissement, est-ce qu'il y a sortie, est-ce qu'il y a recommandation? Donc l'article est vraiment construit en étapes, en blocs et en éclairage à chaque fois. Et à chaque fois, on apporte un éclairage sur la vallée de la mort dans une perspective de finance entrepreneuriale, dans la construction des cas, dans qu'est-ce que sont les événements, dans qu'est-ce que sont les étapes. Donc effectivement, ça amène, chaque composante va générer des propositions. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'illustrations dans cet article, mais du coup on construit petit à petit les éléments cadres qui permettent de proposer l'articulation du processus que l'on détaille.
Ouais, le modèle. Est-ce que tu sais si ce modèle est utilisé notamment par votre co-auteur qui est lui-même business angel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une application?
Alors, c'est quelque chose avec lequel, en tout cas, c'est en contexte pédagogique. Moi, j'invite mes collègues qui travaillent sur ces thématiques-là à pas hésiter à se servir de ce modèle pour justement expliquer ces éléments et ces cheminements. Est-ce que c'est des choses qu'il partage avec les gens avec lesquels il travaille en tant que praticien? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est des choses qu'on est amené à partager avec les réseaux de Business Angel? Oui, c'est d'ailleurs au programme dans les prochains mois.
Oui, donc il y a une implication pratique qui est tout à fait aussi intéressante. Donc vraiment le papier complet, on va dire, tant d'un point de vue théorique, méthodologique que pratique. Très bien, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne continuation. J'imagine que par la suite, alors est-ce que, oui, ça c'était une question aussi, est-ce qu'il y a une déclinaison possible et si oui, laquelle et comment? Sur une base peut-être plus quantitative, peut-être sur la base, parce que bon, là on est vraiment sur du très fin, sur du quali, on va chercher l'information, on la décortique, on est en processuel, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec des bases de données. Quoique, dans la mesure où vous travaillez sur des événements, hein, ça pourrait aussi être peut-être quantifié davantage. Travailler de manière plus quantitative, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, à laquelle vous avez déjà pensé? Et si oui, comment vous pourriez la mettre en œuvre?
Alors en l'occurrence, c'est pas dans les tuyaux, c'est pas prévu à court terme, pas parce que c'est on pourrait, hein, la transposition en questionnaire ou en travail approfondi avec un réseau de business angel, c'est pourrait se faire. Monter en quanti pourrait être un peu, on pourrait rencontrer quelques difficultés dans la mesure où si on prend tous les deals il faut quand même avoir des personnes qui ont entretenu cette mémoire, capables de requalifier l'ensemble des éléments. C'est vrai que on se rend compte que c'est il a été clé d'avoir un membre dans l'équipe qui avait ces deux fonctions, qui était à l'intérieur et qui connaissait les cas, qui était du coup capable de les relire dans cette perspective là d'identifier les choses, de reconstituer. En fait, c'est même en fléchant et en guidant un questionnaire, ce serait pas forcément si facile que ça d'arriver à reconstituer ces événements et à les flécher. Tout est possible en la matière. Après, ce serait monter sur des volumes qui soit ou est-ce qu'on le fait au travers de juste de la vision des business angels? Est-ce qu'on le fait au travers de ce typologie de situation qu'ils ont pu rencontrer, détériorée, pas détériorée? C'est difficile de dissocier ce type d'étude de cas réels en fait. Donc ça serait sur la dimension sur la logique de réinvestissement et en travaillant plus largement avec un plus grand panel de business angels sur la logique de réinvestissement et de relations longues, etc., etc. Oui, mais c'est vrai que moi je suis plutôt pro, je suis plutôt dans des lectures qualitatives, et après c'est plus dans la dissémination de ce genre de modèle et dans la discussion avec lesquels qu'on a autour, hein, parce qu'en fait ce genre de recherche, et ben en fait on est en interaction avec un peu plus d'acteurs que celui qui était à l'intérieur. Ça nous, et on teste, on valide, en fait on est en questionnement avec c'est des modèles qui se co-construisent plus qu'ils ne se construisent tout seuls en haut de notre tour d'ivoire. C'est des modèles qui se co-construisent, donc on sait que c'est des schémas dans lesquels les business angels se retrouvent facilement.
Bien, et merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, je pense que c'est vraiment un article que j'ai trouvé vraiment tout à fait intéressant, qui est relativement rare finalement en finance, d'avoir du quali comme ça en finance entrepreneuriale. C'est pas si fréquent.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci beaucoup, Vincent.
Au revoir.
Au revoir.